Je voulais introduire avec cette petite musique qu'on connaît, hein. C'est un morceau magnifique, chanté par Louis Armstrong dans les années 60. Et je voulais simplement vous traduire les quelques strophes. Quand je vois le vert des arbres, le rouge des roses, quand je les vois fleurir pour moi et pour toi, alors je me dis en moi-même, quel monde merveilleux. Quand je vois le bleu du ciel, les nuages d'un blanc vaporeux, les jours illuminés de bénédiction et les nuits sombres et sacrées, alors je me dis en moi-même, quel monde merveilleux. Il y a des trésors comme ça dans l'humanité. Et j'ai appris en regardant sur Internet qu'après les attentats du 11 septembre, cette chanson a été interdite par les autorités. J'imagine un temps, les radios n'avaient pas le droit de diffuser cette chanson. C'est vrai que c'est un peu difficile quand on voit ce qui s'était passé à ce moment-là, de se dire quel monde merveilleux. Et puis, je me suis dit, si Louis Armstrong avait vu ces photos-là, je ne sais pas si vous voyez bien, je crois que ça aurait été un peu plus difficile de chanter « Quel monde merveilleux !» Alors, bien sûr, c'est des photos, j'imagine, montage. Je voulais un peu choquer, un peu réveiller. Non, ça c'est une vraie photo. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Notre capitale, on voit un peu au fond, là, derrière la tour Eiffel. Ça, c'est une vraie photo. On est d'autres, hein, comme ça. Alors, moi, au début, je disais à ma fille hier, elle est belle, cette photo. En fait, elle me dit, non, mais c'est... il perd son pétrole, là. En fait, c'est une grosse pollution derrière. C'est assez joli, en fait, mais... Et puis... Une belle tortue magnifique qui est en train, malheureusement, de manger un sac en plastique. Quel monde merveilleux. Depuis quelques années, on est tous en Occident, et même je crois c'est planétaire, immergés dans une prise de conscience brutale, violente, de la situation écologique. Et c'est mon thème ce soir, l'écologie. Alors je prends le mot écologie grossièrement pour dire toutes les actions saines, bonnes pour l'environnement, etc. Et on est vraiment submergé, on ne peut pas ouvrir un journal, on ne peut pas ouvrir la télé sans avoir au moins une fois par jour une info inquiétante, alarmante par rapport à notre environnement, par rapport à l'écologie. Et donc on entend parler de réchauffement de la planète, de destruction de la couche d'ozone, pollution de sol, de l'air et de l'eau, total, l'épuisement des ressources naturelles, la disparition des forêts, l'extinction accélérée des espèces vivantes et l'accumulation démentielle de déchets chimiques et nucléaires. Et ça, c'est ce qu'on entend tous les jours. On l'entend tous les jours. Un petit exemple, connaissez-vous le 7e continent ? Alors, pour ceux qui ne savent pas, le 7e continent, c'est une production humaine. À cause de notre production de plastique, on recycle seulement 9% du plastique que le monde produit. Ce qui fait que tout le reste, une bonne partie, va dans les océans. Et donc, il y a comme un continent, alors une masse avec des plastiques en suspension qui flottent, de la taille comme 6 fois la France. Autre exemple d'information, le jour du dépassement. Savez-vous que le 10 mai dernier, nous vivons à crédit? À crédit, en effet. En fait, on consomme beaucoup plus en termes de ressources que ce que la Terre peut produire en un an. C'est-à-dire que ce que nous consommons en un an, la Terre n'arrive pas à suivre le rythme. Et un Américain, par exemple, on aime bien taper sur les Américains, il consomme 5 planètes par an. Les Français consomment 3 planètes par an. Et une personne qui vit en Inde, ben, consomme 1 planète par an. Donc là, elle a l'équilibre. Et ce qui est inquiétant, en fait, c'est que le jour du dépassement, eh ben, il avance au fur et à mesure. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en Europe, c'est le 10 mai, ben, d'après les statistiques, l'année prochaine, ce sera peut-être le 10 avril. Vous voyez le problème? Alors, on est submergé par des informations qui sont inquiétantes. Et ma question ce soir, c'est comment, en tant que déjà citoyen de la Terre, et puis en tant que chrétien, comment vivons-nous ça? Comment vivez-vous ça? Peut-être que vous êtes déjà sensibilisé, peut-être que vous triez vos déchets déjà, ou peut-être que vous préférez prendre votre vélo plutôt que votre voiture, ou peut-être en fait que vous faites rien, ou pas beaucoup. Alors il y a Fanny qui est parmi nous, qui a commencé à faire un questionnaire. Elle a pu sonder, alors elle a commencé, la jeune fille qui est là avec le petit machin rouge autour du cou là, elle a commencé à faire un questionnaire par rapport à son activité, elle vous en parlera après le message. Questionnaire par rapport à l'écologie et puis votre perception et vos actes par rapport à l'écologie. Et elle m'a dit, elle était choquée des réponses qu'elle a eues. Elle en a eu 20, elle était choquée parce que dans les réponses, il y avait un fatalisme par rapport à la question écologique. Et ça l'a surprise. Alors j'aimerais faire un point ce soir et puis qu'on se pose la question ensemble, pourquoi est-ce que je fais des actes écologiques ou pourquoi j'en fais pas? Quelles sont les pensées et les convictions qui sont derrière mon action ou mon inaction? Et puis je vais même poser une question choquante ce soir. Est-ce que vous pensez que les questions écologiques dont on est submergé concernent les chrétiens et l'Église? Parce qu'il y a des versets dans la Bible qui sont un peu violents et qui disent « la terre sera consumée » et on nous parle avec beaucoup de force d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux qui vont arriver. Comment on comprend ça? Qu'est-ce que ça produit en fait? Alors pour moi, c'est une question cruciale. Quel est l'avenir de la Terre? Est-ce que la Terre a encore un avenir? Qu'est-ce que Dieu pense par rapport à ça? Et je ne vais pas répondre à cette question ce soir. En fait, je vais répondre à cette question dimanche 7 juillet. Donc, je vous donne une invitation pour la suite de l'histoire. Un petit teasing, là. Mais ce soir, je voudrais simplement m'arrêter sur, en tant qu'être humain, et à plus forte raison en tant que chrétien, pourquoi l'écologie nous concerne. Pourquoi nous devrions être actifs et acteurs par rapport à ce défi planétaire? Et la réponse est dans ce mot, vous me direz, réconciliation. Exactement. Il n'y a que le pasteur qui suit là. Réconciliation. Dans réconciliation, il y a retrouver quelque chose de perdu. Il y a reconnecter. Il y a comprendre à nouveau. Aimer à nouveau. On a entendu, la réconciliation a plusieurs dimensions. Il y a d'abord être réconcilié avec Dieu, c'est la base, c'est le point de départ. Après, il y a la réconciliation avec soi-même, s'aimer, apprendre à s'aimer, à s'accepter. Et puis, il y a cette réconciliation avec les autres, avec nos prochains. Et, ça ne s'arrête pas là, il y a aussi la réconciliation avec notre environnement, avec là où nous vivons, à savoir la planète. Donc pour vous persuader que je suis bien dans le thème de la série en fait. Alors, je voudrais juste mentionner trois points de ce que dit Dieu, et j'ai prié pour ça, c'est que ces trois points-là puissent nous remuer et nous faire réviser ce que nous pensons et nos comportements par rapport à ce défi-là. Bon pour vous? Que dit Dieu sur l'écologie? Alors j'ai une première affirmation, bien sûr on la connaît tous, mais je vais la dire quand même. Dieu aime sa création. Sa création, la sienne. Dieu l'aime. Mais il l'aime à un tel point, je crois qu'on a du mal à imaginer à quel point Dieu aime ce qu'il a créé. Alors on connaît ces textes, en Genèse 1, vous avez le début de l'histoire qui est grandiose, tout le monde le dit. Dieu crée les cieux, l'univers, l'espace, les étoiles, et c'est déjà merveilleux. Et Dieu crée la terre, des arbres, des plantes, l'air, l'océan, les animaux et nous. Et puis, quand Dieu crée tout ça, à chaque fois dans le texte, c'est ponctué, je crois 7 fois, Dieu regarde et il dit « c'est bon ». C'est bon, ce que j'ai fait, c'est bon. Et vous savez, il n'est pas en train de s'envoyer des fleurs, en train de se dire « ouais, je suis quand même bien, quoi ». Il est en train de s'émerveiller devant la création. Il est en train, il y a une joie en Dieu à ce moment-là, quand il crée, et il dit « c'est bon ». D'ailleurs, le mot « bon », « tov », signifie aussi « c'est beau ». Il est touché par la beauté de ce qui est sorti ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, mais de la pensée de Dieu et de sa parole. Et Dieu dit « c'est bon », et même il bénit les animaux, il va jusque-là. Alors, on peut imaginer qu'il y a, à ce moment-là, une émotion en Dieu, quelque chose de profond, une passion même, je dirais, par rapport à sa création. Dans Matthieu 6, Jésus nous dit que Dieu il a fait les oiseaux, il a imaginé leur mode de vie, qu'ils ne sèmeraient pas, qu'ils ne moissonneraient pas, et que Dieu lui-même les nourrirait. Il y a un plaisir de Dieu de nourrir les oiseaux. Matthieu 6 encore, Jésus nous dit que Dieu était comme un grand couturier, et puis il a mis des robes somptueuses sur les fleurs des champs. Il y a un petit passage que j'aime bien. Proverbe 8, j'aime beaucoup les proverbes. Et dans Proverbe, il y a la sagesse qui a été enfantée et qui était aux côtés de Dieu. Et elle dit, moi, la sagesse, j'ai été enfantée, j'étais à ses côtés comme un maître d'œuvre. Et je faisais jour après jour ses délices, jouant devant lui en tout temps, jouant avec le monde, avec sa terre, et trouvant mes délices dans les êtres humains. Et ce mot jouer, c'est le mot divertir, jouer, chanter, battre, danser, rire, sourire. Il y avait en Dieu quelque chose de puissant au moment de la création. Quelque chose de profond dans des émotions, on pourrait dire. Et je ne sais pas comment vous vivez la nature, quand vous êtes devant l'océan, quand vous êtes devant un superbe animal. Il y a quelque chose qui se passe, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose en nous qui nous touche. Quand on voit un animal et qu'on regarde, il y a son regard qui nous rencontre, ou quand on entend même les cris, puis ça vient nous toucher à l'intérieur. Moi, je crois que dans ces moments-là, il y a comme quelque chose qui se connecte en nous à Dieu. Il y a comme ce frémissement en nous qui se connecte et qui retrouve peut-être le cœur de Dieu au moment de sa création. Les cieux racontent la gloire de Dieu, dit le psaume 19. Et Romains 1 dit qu'on peut connaître Dieu juste en contemplant ses œuvres, sa création. C'est vrai que quand on regarde l'océan, quand on est face à une montagne, quand on est sous la foudre, il y a quelque chose de grand qui se passe. Il y a quelque chose de grandiose. Il y a quelque chose de majestueux qui nous apparaît à ce moment-là. On se sent tout petit, infiniment petit. Et on se dit, mais là, il y a de la majesté. C'est Dieu. C'est Dieu dans ses œuvres. Alors après, on le sait, l'homme, couronnement de la création, parce que image, le seul à être à l'image de Dieu. Et puis cet homme, il a reçu ce qu'on appelle le mandat culturel. Va, porte du fruit, multiplie-toi, soumets, domine, garde et cultive. Et tout cela, c'était la mission de l'homme sur cette merveilleuse terre que Dieu avait créée. Et cette mission, l'homme devait l'accomplir avec, en communion avec Dieu, en fait. Et c'était vraiment la communion avec Dieu qui était le garant de la réussite de cette mission-là. Et puis, dernière chose que je voudrais dire par rapport au fait que Dieu aime sa création, c'est quelque chose que l'homme, que l'être humain, peut-être même que nous-mêmes, nous oublions. C'est que la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas aux hommes. À l'Éternel, dit le psaume 24, la terre est ce qui la remplit, le monde est ce qui l'habite, car c'est lui qui l'a fondée sur les mers et affermie sur les fleuves. Vous savez que l'être humain, quand même, est très fort pour se sentir chez lui, à l'aise. Hein, il prend très vite ce qu'on ne veut pas forcément lui donner. Et je trouve qu'on se comporte comme des propriétaires. Mais nous ne sommes que des locataires, en fait. Nous sommes chez Dieu. Alors, si je résume cette partie, je suis le créateur, dit Dieu, le père de ce monde. Et j'ai fait ce monde bon, sans mal. Et ce monde parle de moi. Et ce monde m'appartient. Alors j'aimerais maintenant qu'on le voit en image. Et la musique dans le fond, en fait, c'est le petit texte que je vous ai lu.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colours of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful.
On peut applaudir, hein, c'est... Ce que Dieu fait est toujours très beau. Toute action de Dieu est merveilleuse. Mon deuxième point, après avoir dit que Dieu aime sa création, c'est de vous dire « ce monde est malade ». Et c'est Romains 8. La création attend, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, la servitude de la corruption. Et jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est un très beau texte de Paul, où la création est comme une personne qui peut soupirer, qui peut attendre, comme une personne qui est là. Et cette personne, elle est soumise à la vanité, à la corruption, et elle souffre. D'un côté, moi je trouve très rassurant que la Bible parle des problèmes écologiques et des désastres. On peut trouver encore dans Apocalypse que Dieu dit « mais le soleil va devenir fou et va brûler les hommes, qu'il va y avoir des tremblements de terre, qu'il va y avoir des eaux qui vont devenir amères ». La Bible parle du fait que la création elle-même, la terre, est comme détraquée. Et je trouve cela rassurant, parce que ça veut dire que cela n'a pas échappé au pouvoir de Dieu, mais que Dieu, en l'ayant annoncé, reste en contrôle. Alors, la terre est malade. Et je pense que là, il y a quelque chose de puissant qui est dit, c'est que la terre est malade parce que l'homme est malade. Et c'est l'unique raison, en fait. La terre est malade parce que c'est l'homme qui est malade. J'étais étonné, comme moi, sûrement, vous allez voter demain. Et donc j'ai reçu toute une liasse de prospectus avec les divers programmes, n'est-ce pas, pour les élections européennes. Et j'ai été surpris par voir dans ces programmes, alors je ne vais pas dire le parti, le slogan « Sauver la planète ». J'étais étonné de l'emploi du mot « sauver ». Parce qu'en fait, le mot sauvé dans le monde, les gens sont allergiques à ce mot-là. Quand on dit l'homme a besoin d'être sauvé, mais ils vous jettent ça à la figure. Ils disent mais non, l'homme n'a pas de problème. L'humanité va gagner. Il n'y a pas de problème en l'homme. Et il y a un rejet de cette vérité fondamentale de l'évangile. L'homme a besoin d'être sauvé de son péché. J'ai besoin d'être sauvé d'un problème fondamental dans ma vie qui s'appelle le péché. Et je trouve ça comme une ironie de l'histoire. Peut-être Dieu est plein d'humour, mais que l'homme rejette cette vérité pour lui-même, ça lui revient comme un boomerang. Et c'est la terre entière qui est malade et qui lui crie. Et là, il commence à dire, oui, il faut quand même sauver la planète. Il faut quand même sauver la terre. S'ils se taisent, disait Jésus, les pierres crieront. C'est ce qui se passe. Les pierres commencent à crier. Dieu avait créé la terre merveilleuse, un paradis pour l'homme et la femme, pour nous. Et puis l'homme s'est révolté. Et conséquence, Dieu a maudit le sol. On trouve ça en Genèse. Le sol n'est plus une bénédiction. La terre n'est plus un paradis pour l'homme à cause du fait que l'homme a rejeté Dieu. C'est à la sueur de ton front que tu tireras ta nourriture du sol. Ce sol qui devait lui amener justement cette nourriture. Et puis il y a les épines qui arrivent, etc. Mais ça signifie aussi autre chose, le fait que Dieu ait maudit le sol. C'est que Dieu a abandonné, ou plutôt livré, sa création à l'homme. Il l'a soumise à la vanité de l'homme. La terre, il l'a livrée aux mains d'un homme devenu insensé, orgueilleux, tyrannique et destructeur. Et en fait, l'homme, nous avons attiré, entraîné la création dans notre chute. Et Dieu l'a permis. J'ai trouvé un texte en Ésaïe 24 que je vais vous lire. J'ai trouvé poignant. Le prophète Ésaïe a dit « La terre, en Ésaïe 24, la terre est dans le deuil, épuisée. Le monde épuisé dépérit. La terre se fissure. La terre craque. La terre est secouée. La terre titube comme titube l'ivrogne. Elle vacille comme une cabane. La terre a été profanée par ses habitants. Car ils enfreignaient les lois, ils altéraient les prescriptions, ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre. Et ses habitants emportent seuls la culpabilité. » Ésaïe 24. Donc c'est sans appel. La terre est malade parce que l'homme est malade. Et c'est vrai que dans les divers documents que j'ai consultés pour préparer ce temps, en fait, tout le monde est d'accord pour dire que les problèmes écologiques sont essentiellement le résultat d'un travers de l'être humain. C'est que l'homme n'accepte pas la limite. L'homme veut exploiter sans limite les ressources naturelles. Il veut consommer sans limite l'énergie, la viande, l'eau, etc. Il veut son confort sans limite. Il veut vivre sans limite. Mais ça, c'est pas possible. En fait, l'histoire est toujours la même. L'homme, en rejetant Dieu, a rejeté toute limite. Et en rejetant toute limite, il a tout détruit. Ce monde est malade parce que l'homme est malade. Et la terre a été rendue solidaire. Troisième et dernier point, et je pense que c'est celui qui peut nous aider à remonter la pente, parce que là on est quand même descendu. Je suis en train de vous gâcher le week-end là, mince. Dieu sauve la création. Dieu sauve ce monde qu'il aime, sa création. Dieu la sauve. Je me souviens d'un jour... Je me souviens encore de l'odeur qui était autour de moi dans la pièce. Je me souviens des meubles. Vous savez, il y a des moments comme ça qui sont forts et qui marquent une vie. Et je me souviens, j'étais, donc il y a peut-être 15-20 ans, donc 20 ans c'est trop, 15 ans, j'étais à faculté Aix-en-Provence, théologie. Et là, il y a le prof qui dit, qui parle du salut. Et là, il y a comme une révélation en moi qui est tombée. Un truc tout simple, vous me direz, mais j'ai compris quelque chose. Dieu sauve. Eh bien, on le sait, Dieu sauve. D'ailleurs, c'est ce que veut dire Jésus. Dieu sauve. Mais il sauve qui ? Et moi, pendant longtemps, je pensais que Dieu sauvait les hommes. Et c'est bien. Mais en fait, Dieu sauve la création. C'est plus, beaucoup plus que les hommes. En fait, Dieu sauve ce qu'il a créé. Et le salut, c'est vraiment cette force en action dans le monde pour sauver ce que Dieu aime et a créé. Et j'ai preuve de ça en Jean 3,16, hein, ce beau verset qu'on connaît bien. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, mais en fait le mot grec qui est derrière le monde, c'est le cosmos, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu a sauvé le cosmos, plus que les gens. Il y a même un psaume qui dit qu'il sauve les animaux. Et puis, Jésus, en Marc 16,15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Ktisis en grec. Toute la création. Donc pas juste des hommes. Ça veut dire que l'évangile, c'est pour tout le créer. Alors on peut trouver plein de preuves de ça, que Dieu sauve plus que les hommes. C'est plus que les gens, on sauve leur âme et puis elles vont dans le ciel. C'est une vision restreinte du salut. Elle n'est pas fausse, elle est juste restreinte. Dieu sauve tout de l'être humain. Son âme, mais aussi son environnement. Et on peut voir ça dans plein d'histoires. L'Arche de Noé, où Dieu fait alliance avec les animaux. Ou encore dans Romains 8, la création est libérée de la servitude. Etc. etc. Donc, Dieu aime sa création. Cette terre est malade parce que l'homme est malade. Et puis, Dieu sauve le monde, sa création. Alors j'ai trouvé ce schéma très intéressant et qui pour moi résume bien les choses. Ego, éco, théo. Ego, c'est une pyramide et l'homme est tout en haut. Éco, c'est un cercle et l'homme, il est noyé dans le cercle. Et théo, c'est un cœur, je ne sais pas si on voit bien le cœur. Et l'homme est à la pointe, à la base du cœur. Où êtes-vous ? Ego, c'est ce qu'on fait dans le mouvement, la société. On consomme, on consomme, on consomme. On se pense à la tête de tout et on ne calcule pas trop le reste. Éco, c'est la pensée écologique du monde qui dit que finalement l'homme n'a pas plus de valeur qu'une bête. L'homme n'a pas plus de valeur que Gaïa, la terre. L'homme n'est pas du tout l'image de Dieu. Ça, c'est dangereux, ça. Et puis, théo, tout a un sens. Dieu donne du sens aux choses. Et l'homme est le pilier sur lequel toute la création et toute la santé de la création peut se développer. Alors, où êtes-vous quotidiennement dans vos actes ? Où sommes-nous ? J'ai voulu donc ce soir vous donner trois raisons pour revenir, pour réfléchir et pour agir par rapport aux défis écologiques. Première raison, c'est l'amour. Vous savez, il y a un critère en 1 Jean qui permet de vérifier si on est bien chrétien ou pas. Si vous voulez, si vous avez des doutes par rapport à ça, lisez 1 Jean, il donne des critères. Un des critères, c'est celui qui aime Dieu, alors il aime ses frères. Celui qui aime Dieu, alors il aime forcément celui que Dieu sauve. Et ben on peut rajouter, on peut aller un peu plus loin et puis de dire, ben, puisque Dieu aime la terre, puisque Dieu aime sa création, si toi t'aimes pas la création, ben, t'as un problème. T'es pas logique, t'es pas cohérent. Il y a quelque chose d'incohérent avec le salut. Nous sommes appelés à vivre une harmonie retrouvée. La deuxième raison, c'est notre appel. Ce que je nommais le mandat culturel, je n'ai pas trop développé, mais Dieu, en nous mettant sur la terre, nous a donné une mission, cultive et garde. Et ces mots, cultiver, signifient dans d'autres textes, le mot hébreu, servir, sers avec le ministère, exerce ton ministère. C'est pareil, c'est la même idée. Dans garder, c'est encore utilisé dans un autre contexte, c'est garde le sanctuaire, garde le sacré. Ce sont les mêmes mots. Et le mandat culturel, il n'a jamais disparu. Il n'a jamais été annulé. Et en tant que chrétien, il est réactivé. Parce que nous retrouvons le chemin que Dieu a prévu pour nous. Et la troisième raison, pour moi la plus forte, la plus grande, c'est simplement, mais Dieu sauve la création. Et il ne nous met pas juste spectateur du salut, il nous met acteur avec lui, collaborateur, participant. Nous participons avec Dieu, nous sommes appelés à être des témoins. Nous parlons pour Dieu vers les autres. Et il en est de même pour la création. Puisque Dieu sauve la création, ce n'est pas logique qu'on reste juste là à regarder la création mourir sans être acteur. Je ne sais pas si vous percevez là. Pour moi, c'est logique, c'est évident. Il y a quelque chose d'évident. On a besoin d'être réconciliés. Et le verset phare de cette série, Colossiens, dit « Vous qui étiez ennemis, étrangers, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Et je crois que nous pouvons toujours, en tant que chrétiens, être par endroits, dans certains domaines, encore étrangers et ennemis de Dieu. Étrangers dans le sens passif, nous ne comprenons pas la pensée de Dieu, nous ne comprenons pas son intention, on ne comprend pas son projet. Et dans ce sens, on demeure étranger à Dieu, étranger à sa vie. Et pour l'écologie, peut-être c'est ça le cas. Peut-être que c'est ça qui se passe. Et puis ennemi, dans le sens, eh bien, que par nos actes, là c'est actif, nous pouvons même, par nos actes, nous opposer à Dieu. Dans le sens, si on fait n'importe quoi, on jette ses poubelles dans la nature, on se comporte comme des ennemis, parce que nos actes s'opposent à l'intention de Dieu. Dans les conférences écologiques, dans les rencontres, il y a des slogans, et j'en regardais un dernièrement, où il y avait une grande banderole, et derrière c'était marqué « changement, urgence ». Il faut changer. C'est vrai que si on n'agit pas, ça commence à vraiment être compliqué. Et en fait, je me disais, mais Jésus, il a pas dit autre chose que ça. Quand Jésus est venu, il a dit changer. Changer, parce que le royaume de Dieu est proche. Changer. Changer, c'est métanoïa. C'est changer sa pensée et après changer ses actes. Et je crois qu'il y a là quelque chose à faire. Alors, ce que je vous propose... Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, c'est de lister cette semaine vos actes écologiques. Que faites-vous en termes écologiques, en tant que citoyen ? Et puis, de vous poser cette question, pourquoi est-ce que vous faites ça ? Ou peut-être, dans l'autre cas, pourquoi vous ne faites pas ? Et moi, j'avoue que j'ai plutôt réfléchi à la deuxième question. Et j'étais étonné. Pourquoi, en fait ? Pourquoi je ne fais pas, alors que ça peut être simple parfois? Et puis, une troisième proposition, c'est que dit Dieu? Parce que le changement ne vient pas de nos propres forces, mais c'est la parole de Dieu qui nous fait changer. C'est elle qui peut être capable de métanoïer, de changer nos pensées. Donc, allez vous confronter à la parole de Dieu. Et puis, pour aller plus loin encore, positionnez-vous, parce que c'est une prise de position par un acte écologique. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore fait, eh bien, positionnez-vous pour dire « j'ai compris quelque chose et je veux le marquer par cet acte écologique ». Et ensuite, progresser pas à pas. Et en fait, c'est ce qu'on veut faire dans l'Église. En tant que chrétien, mais aussi en tant qu'Église, on a vraiment un témoignage, être cohérent avec l'amour de Dieu et ce qu'il est en train de faire, sauver la création. Et donc, dans ce sens, eh bien, on veut aussi, avec l'Église, faire des actes qui manifestent que on a compris et on agit. Je dirai un peu plus dans ma prochaine prédication, dimanche 7 juillet, je vous donne rendez-vous déjà. Juste pour vous dire, il y a un label qui se développe dans des églises, je crois, toutes les confessions chrétiennes, ça s'appelle le label Église verte. Alors, on regarde. C'est un bon outil, c'est l'air intéressant. Et puis aussi, dans cette série, le signe de cette série, Rodrigue l'avait introduit la dernière fois, on va planter des arbres dans le désert, en Israël. Ce sont là aussi des actes. Et moi, je trouve que ce n'est pas anodin. Hein. Je ne suis pas là en train de juste parler de l'écologie, puis après, hop, on passe à un autre sujet. Je pense que c'est des actes qui ont une portée spirituelle et qui manifestent qu'on est des enfants de Dieu et qu'on a compris notre Père et on agit en cohérence avec ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait.